France Bleu Drôme Ardèche.
Notre grand invité en cette fin d'après-midi, c'est Tom Charby qui nous a rejoint. Bonsoir Tom.
Bonsoir.
Et bonsoir Valérie Rollman.
Et bonsoir.
Qui nous a rejoint également parce qu'on va parler bouquin. Alors Valérie, évidemment, a lu le nouveau Tom Charby. Oui, car il y a un nouveau Tom Charby.
Oui.
C'est son premier roman, Les Sirènes d'Esvedra. Voilà.
Alors c'est un nouveau roman. Nous avions essayé d'en parler. On a tenté, on a fait une expérience.
Oui, je sais, vous avez déjà essayé, effectivement, à cette même heure. Depuis Aubenas,
à cette même
le
heure, c'était le 5 janvier à la librairie Tiers-Temps d'Aubenas. On salue Claire qui nous écoute certainement. On a eu un problème ce jour-là. Voilà. Et nous revoilà donc pour parler de ce fameux livre, ce premier roman, donc Tom Charby, Les Sirènes d'Esvedra. Quel joli nom, Les Sirènes d'Esvedra. En plein hiver, c'est presque. Comment vous dire? C'est presque.
Ouais. C'est très exotique en tout cas.
C'est un petit rayon de soleil, c'est presque de la provoque.
Ça résonne curieusement avec l'actualité, n'est-ce pas?
Nous ne dirons rien de l'actualité et de la destination de ce livre qui est Ibiza. Voilà, c'est dit. Où se trouve Esvedra?
Oui, Esvedra, en effet, se situe à quelques centaines de mètres de l'île d'Ibiza. On est dans les Baléares. C'est un rocher qui culmine à 400 mètres au-dessus de la mer. C'est un lieu magique, vraiment, d'une grande beauté, sur lequel planent des tas de légendes. Le soleil se couche derrière. On est vraiment à l'ouest. C'est un lieu qui est iconique. Enfin, s'il fallait une image pour parler d'Ibiza, c'est sans doute celle-là qu'on garderait.
Pour parler d'Ibiza, c'est l'image que vous avez.
Ouais, je pense.
Quelques cailloux. Alors nous qui ne l'avons pas vu, quelques cailloux sur la mer.
Oui, un grand rocher. Il faut vraiment imaginer une grande pyramide.
Comme une île.
C'est une île. Hein. C'est une toute petite île à l'ouest d'Ibiza. Et les vacanciers, les locaux ont pour coutume de se réunir sur la côte ouest de l'île pour regarder le coucher de soleil. Disparaître derrière l'île. C'est vraiment un lieu superbe.
Alors effectivement, vous nous disiez qu'il y a des croyances autour de ce rocher, de cette petite île. Est-ce que ces croyances sont en rapport avec ce qui va se passer dans l'île?
Oui, bien sûr, absolument. Une des plus belles légendes qu'on raconte sur Esvedra, c'est que les sirènes auxquelles Ulysse a échappé à son retour de Troie se cachaient sur cette île. En réalité, les historiens situent plutôt l'action du côté de la Sicile et de l'Italie, mais les habitants d'Ibiza adorent raconter cette légende. On dit aussi que l'île habiterait des ovnis, on dit qu'elle serait la source de courants telluriques. Enfin, il y a beaucoup de légendes sur sur ce très beau rocher.
Faut dire qu'on y fait un tas de choses, hein, Ibiza. C'est fou ce que ça doit ouvrir l'imagination.
Oui, on y danse, on y télétravaille.
D'y passer un été, ça doit.
Mais Tom, pour vous, c'est quoi? C'est les vacances, Ibiza aussi? Enfin, je veux dire, ça. Comment vous avez connu ce lieu?
Oui, c'est un lieu. Enfin, c'était logique de passer par là à un moment dans cette histoire et dans ce récit, puisque le narrateur de cette histoire s'appelle Juan. Il est DJ de métier. Mmh. Et chacun sait que Ibiza, c'est la Mecque de la musique électronique, avec quelques autres lieux. Berlin, par exemple, est devenu la capitale européenne de la musique électronique. Mais Ibiza occupe une place à part, parce que c'est un endroit où on peut faire la fête presque toute l'année, où on peut danser les pieds dans le sable, où des gens de tous les pays viennent écouter cette musique, où il y a une offre qui est absolument extraordinaire. Et donc, c'est pas possible d'écrire un roman avec un personnage principal qui a ce métier de DJ sans passer à un moment ou un autre par Ibiza.
Voilà. Alors, on va raconter rapidement ce qui se passe. Hein. Nous avons notre Juan qui est DJ depuis 20 ans. Être DJ, et vous en savez quelque chose, puisque vous l'êtes vous-même un petit peu.
À titre amateur, oui.
À titre amateur, mais quand même. Lui, c'est à titre professionnel, c'est juste une vie de dingue.
Oui, absolument, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vécu à 1000 à l'heure pendant 20 ans, qui ne sait faire que ça, qui a consacré sa vie à ce métier, qui est quelqu'un de très connu et de très respecté dans son milieu, qui a passé 20 ans à sauter d'un avion à l'autre, changer de pays 4 fois par semaine, mixer parfois dans deux clubs dans la même nuit, et qui, à l'approche de la quarantaine, rencontre des problèmes de santé qui vont l'obliger à lever le pied. On ne sait pas si c'est juste temporaire ou si c'est définitif, mais en tout cas, sa carrière est remise en question, et il va quitter cette vie cette vie de voyage, cette vie d'excès, cette vie en décalage par rapport à la vie du commun des mortels, pour se poser dans une petite maison du sud de l'Ardèche, où il va essayer de s'inventer une nouvelle vie.
C'est un petit peu ce que vous avez fait, mais je tiens à préciser que ce n'est pas un roman autobiographique. Ce n'est pas tout à fait votre histoire, même si vous aussi, vous avez changé de vie, Tom.
Oui.
Et vous êtes venu en Ardèche, et vous avez été DJ. Quand même, ça fait beaucoup de légères ressemblances.
Oui, je pense que c'est assez normal, quand on écrit un premier roman, de puiser dans des choses qu'on connaît, des lieux qu'on connaît, d'essayer d'injecter, comme ça, dans le récit, toute une série de souvenirs, d'anecdotes, etc. Mais l'écriture, c'est vraiment... Il faut imaginer, on va rester dans la métaphore du cocktail, il faut vraiment imaginer qu'on met tous ces éléments dans un shaker, qu'on secoue très très fort et qu'on reverse ça et qu'au fond, tout est mélangé. Il n'y a pas de personnage vraiment réel, mais chaque personnage emprunte des traits de caractère à des personnes que je connais, pour le coup. Donc voilà, le jeu de l'écriture, c'est un peu un jeu de dupe quand même. On travestit la réalité, on la rhabille, on en fait autre chose et c'est comme ça qu'on avance. Donc, non, il n'y a rien d'autobiographique, mais
quand même un peu.
Mais
un tout petit peu. Mais en fait, le livre commence maintenant. Ah. Voilà. Là, c'était la présentation de l'histoire. On vous a assis l'histoire sur ce magnifique rocher à Ibiza. Et c'est maintenant que commence l'histoire, en fait, lorsque ce fameux Juan arrive en Ardèche. Alors, que va-t-il lui arriver? On va en parler dans quelques instants.
Tom Charby va rester avec nous. Mais sinon, David Guetta, vous l'avez vu récemment
Non, je ne le connais pas personnellement.
Il n'est pas installé en Ardèche.
Non,
d'accord, okay, tout va bien. sinon, on va l'inviter. Tom Charby, notre grand invité, avec Valérie Rollman dans cette fin d'après-midi.
France Bleu. Du 19 au 23 janvier, Cheval Passion revient à Avignon. Le festival équestre accueille 250 exposants, plus de 1000 chevaux et poneys et des animations pour tous. Retrouvez toute la magie du spectacle équestre du Gala des Crinières d'Or. Cheval Passion, du 19 au 23 janvier, au Parc Expo d'Avignon. Toutes les infos sur cheval-passion.com.
Savez-vous que des cars région interurbains passent près de chez vous? C'est l'occasion de réaliser de belles économies, comme Julien.
Bah oui, 3 euros seulement avec la ligne 15 pour un trajet Aubenas à Avignon, sans même prendre l'abonnement, vous vous rendez compte? Et pour ma fille qui a moins de 26 ans, c'est 1,50€. À nous la Cité des Papes.
Bravo Julien.
Information 04 75 35 69 90. La région vous transporte.
What a wonderful world. of beer. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. You find me somewhere over the rainbow, rumors lie, and the dream that you did to me. Oh, why can't I you find me, oh
Voilà, au pays des DJ, c'était Robin Schulz, juste à l'instant, puis on en a un autre, DJ, ou ancien DJ, oui, non, toujours DJ, Tom Charby, notre invité, mais avant tout romancier, c'est pour ça qu'on le reçoit en cette fin d'après-midi sur France Bleu de Romardèche avec Valérie Rollman pour son nouveau roman, Les Sirènes d'Esvedra. Donc on a, tout à l'heure, voilà, planté un peu le décor, mm-hmm. et maintenant, Valérie, il paraît que le roman commence.
Ah oui, le roman commence quand Juan, le héros de l'histoire, ce fameux DJ professionnel qui va de scène en scène, de nuit en nuit pendant 20 ans, un jour a un vrai problème physique et décide de lever le pied et arrive en Ardèche. Alors, est-ce que l'on peut parler, parce que vous savez que quand on présente un livre, il ne faut pas tout dire, il y a des points clés.
Ah bah oui.
Et justement, est-ce qu'on peut dire ce qui lui arrive à Juan?
Oui,
ça, parce on peut lui dire.
Oui, parce qu'on le découvre assez vite, hein. On le découvre dans les 30 premières pages. En fait, il est atteint de problèmes de surdité, ce qui est un mal malheureusement bien commun.
Oui.
Mais ce sont des problèmes de surdité difficiles à diagnostiquer et assez inquiétants. C'est d'ailleurs une des questions qui... pour ceux qui liront le livre, n'est pas complètement tranché. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement de quoi il souffre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'inquiète au point de se dire qu'il faut vraiment lever le pied.
Oui, il y a un moment absolument succulent, d'ailleurs c'est tout au début du livre, où on le voit, où lui-même comprend qu'il ouvre la bouche, qu'apparemment il n'y a rien qui sort, il regarde les autres, il ne les entend pas, enfin on a l'impression d'un poisson dans un bocal, c'est assez flippant. Hein.
C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Et on part sur quelque chose d'assez dramatique, on se rend compte que ce type-là est en train de jouer sa vie, il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. En effet, il parle un peu tout seul, il s'entend pas trop, il a des formes de surdité un peu partielles, quoi. Ça va, ça vient, sans raison apparente. Évidemment, c'est un handicap terrible pour son métier, et à la suite d'une consultation chez un ORL, le médecin lui suggère fortement de lever le pied et d'aller se mettre un peu au vert.
Voilà. Oui, parce que les oreilles, ça se repose au vert en Ardèche. Et là, quand même, il y a quelques moments délicieux où vous nous faites très plaisir, Tom Charby. Même si dorénavant vous êtes ardéchois, ça nous fait très plaisir, parce que Juan aime l'Ardèche.
Oui, alors c'est assez drôle, en effet, parce qu'il arrive vraiment au pire moment. D'abord, lui-même, il est quand même au fond du gouffre. Hein. Après 20 ans de carrière, il est plus au tout début, hein. il a bien vécu, c'est-à-dire il commence à voir les bons et les mauvais côtés de ce métier-là. Il a ces problèmes de surdité qui lui tombent dessus et il se retrouve dans cette maison au début de l'hiver, on est début novembre, avec 100 km/h de vent, dans une maison qui prend l'air de tous les côtés. Il est évidemment très seul, il n'a aucune attache dans cet environnement. Donc c'est au début, on le découvre, on sent qu'il subit vraiment ce qui lui arrive. On est loin du cliché de la Provence, des oliviers, des tomates bien mûres, de l'air
c'est
et des apéros qui durent. Non, il est vraiment, il arrive vraiment au pire moment. Donc la première partie du livre, on est vraiment avec lui. On est beaucoup dans sa tête, par la force des choses, parce qu'il est très seul et qu'il rumine. On en apprend beaucoup sur son passé. Et puis, petit à petit, on va le voir s'ouvrir aux autres, rencontrer les villageois, tisser des liens d'amitié avec certaines personnes sur place et on va sentir qu'il remet un pied dans la vie.
Oui, il remet un pied dans la vie. Cela dit, dès le départ, on ne l'a pas dit, c'est un type particulièrement grognon. D'ailleurs, très désobligeant avec nous, les animateurs de radio locale, puisque dès les premières pages, il s'insurge contre une émission qu'il a fait avec des animateurs qui vraiment étaient en dessous de tout. Je dois dire qu'aux premières pages de lecture de votre livre, Tom, je me suis beaucoup amusée. Je me suis dit, mais comment va-t-on faire pour pouvoir s'entendre et se parler?
Mais oui, mais c'est
il,
ça.
Il est très grognon.
Oui,
il est
oui,
très,
oui, oui. C'est un
il
personnage,
va pas bien, quoi.
C'est un personnage grinçant. Enfin, moi, ça m'intéressait d'un point de vue littéraire, justement, d'aller. Évidemment, on doit créer une forme d'empathie. Il faut que le lecteur ressente de l'empathie pour le personnage. Mais si ce personnage, dès les premières pages, il est formidable, il est beau, il est sympa, il est absolument cool avec tout le monde. Bon, c'est facile, quoi.
Ouais,
qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'était beaucoup plus intéressant de partir d'un personnage qui, en effet, est pressé, arrogant,
ouais,
énervé par à peu près tout.
Il remballe tout le monde.
Ouais, c'est ça. Il juge tout le monde à l'emporte-pièce, ouais. Tout et tout le monde en permanence. Il a ce côté pénible.
Vraiment,
ouais. C'est ça. Et c'est d'autant plus intéressant.
Mais ça va pas empêcher de faire des rencontres.
Ouais,
donc,
on apprend à le connaître.
Ah oui. Alors, oui, c'est vrai, mais d'abord il va s'ouvrir, d'abord il va se calmer. Ça va être une espèce de on pose tout, il y a la burle, il y a le froid, il y a l'intériorité, hein, c'est un petit peu tout ça.
Ouais.
Et c'est l'intériorité des maisons. Il va falloir réchauffer tout ça. Et puis tout se pose, les sons se posent. Tout se pose, la vie reprend, et avec la vie, l'amour évidemment, parce que ça ne va pas tarder à arriver.
Ah.
Est-ce que j'en dis trop?
Non, pas du tout. C'est toute la partie centrale du livre, c'est en effet celle d'une renaissance, de quelqu'un qui commence à vivre le jour plutôt que la nuit, nouer des relations longues et durables avec des gens qu'il ne connaissait pas du tout, avec lesquels il n'avait pas d'affinité particulière, plutôt que la vie qu'il menait auparavant, qui était une vie trépidante, où il rencontrait des milliers, des dizaines de milliers de gens, mais avec lesquels, par la force des choses, il ne pouvait pas nouer d'amitié durable. Donc c'est vraiment le récit d'une renaissance, et cette renaissance, elle passe par plein de choses. Il y a des tas de personnages qui vont lui montrer une voie, des voies possibles dans lesquelles il va se projeter. Parfois, on se rend bien compte, quand on commence à le connaître, que c'est complètement à côté de la plaque et que c'est vraiment pas fait pour lui. Mais voilà, c'est le récit d'une renaissance avec ses obstacles, avec ses impasses. Est-ce que c'est vraiment possible de changer, au fond?
Est-ce qu'on peut revivre après
ça? Est-ce que quand on a consacré 20 ans de sa vie à faire ça et qu'on ne fait que ça, est-ce qu'on peut vraiment se relancer dans autre chose?
Mais est-ce que c'est pas un peu une crise de la quarantaine qui vit ce type en même temps,
de
la cinquantaine, je sais pas trop quel âge il a, 45?
Je pense qu'en fait c'est certainement quelque chose que vivent plein de gens. Vraiment, quel que soit le métier, quelle que soit l'origine sociale, je pense que beaucoup de gens, alors le contexte actuel évidemment ne fait qu'accentuer encore ça, mais le fait de s'interroger à un moment dans sa vie, qui est un moment charnière, enfin qu'aux 40 ans, on le sait bien, on arrive au milieu, quoi. Le temps passé devient plus long que le temps à venir. Enfin, on sent bien qu'on est sur une pente descendante, quand même.
Vous êtes vraiment désagréable.
Voilà, l'ambiance est plombée.
Voilà, je me compte parmi ces gens, hein, moi qui ai passé la quarantaine il y a quelques années. Mais ce qui est attachant avec ce personnage, c'est que il a une dimension un peu sombre. Il est lucide, mais lucide sur le monde qui l'entoure, mais ça entraîne chez lui une forme de fatalisme, une forme de pessimisme. Mais en même temps, et c'est ça qui le rend attachant, c'est quelqu'un qui a envie de s'en sortir, quoi. C'est quelqu'un qui a envie de s'inventer une autre vie, qui se rend bien compte que sa vie n'est pas terminée. Enfin, s'il jette l'éponge à 40 ans, c'est terrible pour lui. Donc, il se projette, il fait l'effort, il va vers les autres.
Et il rencontre
une jeune Aurore avec qui il va passer un peu de temps et qui est une militante, une activiste. Alors le récit se passe dans les années 2010 en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche, et je pense que les Ardéchois qui nous écoutent, mais les Drômois aussi qui nous écoutent s'en souviennent. C'est l'époque où tout le pays était menacé par la question de l'exploitation des gaz de schiste. Et cette question occupe une place à un moment de l'histoire, au centre du livre, parce que tout d'un coup, ce Juan, qui était quand même un peu le symbole de la fête, de l'hédonisme, du fait de vivre sans penser au lendemain. De la consommation. De l'argent facile, on pourrait dire. Voilà. Et donc du jour au lendemain, il se retrouve projeté au milieu d'un groupe d'activistes qui luttent ardemment contre l'exploitation des gaz de schiste. Et il s'imagine, soudain, en révolutionnaire, faisant vaciller les multinationales du pétrole.
Voilà.
Et ben voilà, il y a aussi l'histoire locale, donc finalement.
Mais ce n'est pas tout.
Mais exactement, il y a forcément une suite. On va voir s'il est vraiment révolutionnaire. Donc restez avec nous, Tom Charby, notre grand invité en cette fin d'après-midi sur France Bleu, Drôme Ardèche.
L'infotrafic 100% local avec le département de l'Ardèche. Le département de l'Ardèche agit pour votre sécurité sur les routes. Plus d'infos sur ardèche.fr.
À 17h30, un coup d'œil sur vos conditions de circulation actuellement sur l'autoroute A7 et l'A49. Ça roule bien, pas de difficulté à signaler si vous rencontrez vous un souci sur votre itinéraire. Hélène est là pour vous accueillir au 04 75 40 10 10. Ailleurs dans les agglos de la région, ce sont les petits ralentissements habituels. Rien de très grave et c'est tant mieux. Bonne route.
Sur France Bleu Drôme Ardèche, c'est l'Happy Hour. 16h-19h.
France Bleu.
Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien.
Alain, mais où étiez-vous?
Je viens de passer 24 heures à l'hôpital. Rien de grave, mais maintenant je suis immobilisé et je peux plus rien faire.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec votre contrat santé, Groupama s'occupe de vous et vous envoie une aide à votre domicile.
Ah, ça me rassure.
Et en plus, en ce moment, jusqu'à 260 euros offerts si vous souscrivez de nouveaux contrats. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
Aujourd'hui, grâce à vous, quand on a un message à faire passer, vous êtes toujours présent.
Eh ben c'est super, merci beaucoup et restez égal à vous-même, France Bleu, il n'y a pas mieux.
J'irai tous ces murs.
Envole-moi, c'est Jean-Jacques Goldman sur France Bleu, Drôme Ardèche. Alors, y a-t-il une vie après la fête? C'est ce qu'on essaye de savoir avec notre invité, notre grand invité, Tom Charby, écrivain ardéchois qui sort son premier roman, Les Sirènes d'Esvedra, qui est paru aux éditions du Seuil. Exactement.
Et attention, retenez bien le nom de Tom Charby, oui. Parce que c'est un livre prometteur. Si Tom est avec nous, c'est bien sûr parce qu'il est ardéchois, Tom. C'est parce qu'on vous aime beaucoup, c'est parce que vous avez un parcours atypique comme Juan dans votre livre, hein, parce qu'en plus, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais Tom est aussi céramiste, oui. Maintenant, il y a du changement de voix incroyable, mais surtout les éditions Seuil croient beaucoup en ce livre, ouais. Et on racontera tout à l'heure combien vite ça s'est passé. Je n'avais jamais entendu parler d'une histoire d'édition aussi rapide. Mais revenons-en à nos sirènes d'Esvedra, à ce Juan qui, après sa vie de fête, est descendu un peu aux enfers et puis est en train de renaître au cœur de l'Ardèche, a rencontré une femme. Malgré tout, ce qu'on n'a pas dit, et c'est très important, c'est que très vite, presque au début du roman, on sent une petite tension qui monte. Et cette tension, on ne peut pas dire ce que c'est. Il y a juste quelque chose qui se passe, qui n'est pas nommé. C'est fort, ça. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Oui. En effet, c'est un livre où on rit beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de scènes qui sont très, très cocasses. Mais c'est aussi un livre qui remue pas mal. Bon, de la vie des, je peux le dire, hein, de la vie des premiers lecteurs dont j'ai les retours, c'est pas uniquement un livre où on rit. Il y a en effet une tension qui est annoncée dès le départ et qui va courir comme ça en filigrane tout le long du livre, jusqu'à un point de bascule qu'il faut pas révéler parce qu'en effet, ça gâcherait beaucoup le plaisir de la plupart des lecteurs. Mais voilà, on oscille entre quelque chose qui est de l'ordre de la comédie, du roman picaresque, avec des tas de personnages, des situations cocasses, et de l'autre côté, dans quelque chose qui serait plus une tragédie, parce que je crois que c'est le message au fond de ce livre. Quand bien même on cherche à s'en sortir et qu'on y met la meilleure volonté du monde, il y a des choses qu'on contrôle pas, il y a des choses qui nous tombent parfois dessus, avec lesquelles il faut apprendre à vivre.
Et là, vous êtes en train de vous dire, ah bon, c'est pas fini, il va encore lui arriver quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive, voilà. Qui se prépare, qui monte, et on peut pas vous dire quoi, et on peut pas vous dire comment ce livre se termine. Mais alors, fermons cette boucle, Tom Charby, quel est le rapport avec Les Sirènes d'Esvedra?
Oui, Les Sirènes d'Esvedra, c'est... Donc, bien sûr, il y a cette métaphore de l'Odyssée qui court tout le long du livre, puisqu'au fond, ce Juan est un peu le capitaine d'un navire, quoi, qui emmènerait les clubbeurs vers des destinations lointaines et dangereuses.
Un Ulysse des temps modernes.
Un Ulysse des temps modernes, ben oui. À ceci près que qu'Ulysse était un type incroyablement rusé et malin, et Juan est peut-être davantage un anti-héros. C'est ça ce qui m'intéresse d'ailleurs. Je pense que c'est la figure du héros en littérature, elle est charmante parce qu'elle nous raconte qu'on est maître de notre destin, que si on cherche à agir sur le cours des choses, on peut réussir à influer sur le cours de nos vies. Juan, c'est quelqu'un qui a plein de défauts, qui a une pente naturelle contre laquelle il a beaucoup de mal à lutter, qui parfois, quand il cherche à s'en sortir, aggrave un peu sa situation. C'est ce qui le rend, je pense, très humain et très attachant. Il est bourré de défauts, mais voilà, il cherche à s'en sortir. On comprendra à la fin du livre comment, finalement, ce passé qui traîne comme un boulet lui sera d'une aide incroyablement précieuse.
Est-ce qu'il retournera à Esvedra?
Moi, évidemment, la réponse n'est pas donnée dans le livre, mais moi, je pense que oui. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'un nouveau départ, hein, sur de nouvelles bases, qu'on ne peut pas dévoiler ici, évidemment.
Non.
On ne peut pas en dire trop. Non, c'est un livre qui se termine d'une façon difficile, mais aussi avec une belle lueur d'espoir. Voilà, disons ça.
Voilà. Ah ben on n'a rien dit alors.
Voilà, c'est bien parce que moi, je le dis, je n'ai pas lu le livre. Alors ne parlez surtout pas de ce qui va se passer. Vous m'avez donné trop envie de le feuilleter, évidemment.
Ce qu'on va faire
lire.
D'ailleurs, c'est qu'on va l'offrir tout de suite à quelqu'un qui aurait envie de le lire au 04 75 40 10 10, puisque je l'ai dans les mains et que justement nous avons l'auteur qui pourrait le dédicacer.
Bien sûr, avec plaisir.
Ce serait quand même. une belle aventure.
Appelez-nous tout de suite, 04 75 40 10 10. Il est pour vous Les Sirènes d'Esvedra de Tom Charby, exemplaire dédicacé, s'il vous plaît, en direct. Et Tom Charby reste un petit peu encore avec nous.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
À Ibiza sur les titres de ABBA dans Shut Me Down et puis tous les anciens.
Ça se fait pas beaucoup en ce moment, hein, non, c'est sur Ibiza.
Pas trop, c'est vrai.
C'est pas politique.
Alors je vous rappelle que vous pouvez partir visiter le musée ABBA à Stockholm grâce à France Bleu, oui, en jouant sur francebleu.fr. Mais ce qu'on vous offre tout de suite là, c'est le nouveau roman de Tom Charby et on va l'offrir à Brigitte. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Vous êtes à Ancône, dans
oui,
le sud.
À Ancône,
voilà.
Oui,
alors que Tom, lui, il est à Balazuc, dans le sud Ardèche.
Et oui, bonsoir
ah,
Brigitte.
Oui. D'accord.
Bon, eh ben, écoutez, Brigitte, on va vous offrir ce roman. Voilà, Les Sirènes d'Esvedra. Et vous savez quoi, Tom va vous le dédicacer.
Oui. Oh là là, je suis chanceuse, vraiment. Je suis très, très contente.
Avec grand plaisir, Brigitte.
Vous m'avez donné très envie de le lire.
Vous avez déjà été à Ibiza, vous?
Non.
Non, hein.
Tous,
non.
Comme nous tous.
Non.
On va tous y aller, c'est ça qui est dingue. C'est qu'on va tous y aller. Bravo, Brigitte. Hein. On vous le dédicace, Tom vous le dédicace.
Merci.
Et on vous le met de côté.
Beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à France Bleu.
On vous embrasse.
Bonne soirée à tout le monde.
Ouais, au revoir, Brigitte.
Au revoir.
On a Tom Charby encore 5 minutes avec nous, on en profite.
Oui. Tom Balazuc. Balazuc, la poterie.
Pourquoi donc ?
La poterie de la forge. Et non, mais je tiens à le dire parce que vous êtes aussi potier, Tom.
Oui. En fait, j'ai eu une première vie d'enseignant-chercheur pendant une dizaine d'années, en sociologie, en sciences politiques. J'étais parisien à l'époque et puis j'ai quitté Paris pour la Bourgogne où je suis devenu céramiste en 2006-2007. Puis je me suis installé en Ardèche en 2009 et j'exerce ce métier de céramiste qui est un très très beau métier artisanal et artistique. Et ce projet de livre, donc c'est un curieux.
Le troisième vie.
Ouais, c'est ça. C'est un peu le début d'une troisième vie. C'est un projet qui remonte à. On pourrait dire que c'est la première idée, je pense, de ce livre, doit dater de 2009-2010, mais je me suis vraiment mis à travailler début 2017. Mmh. Voilà, donc il y a un moment déjà.
Ah oui.
Ouais, vous avez mis le temps de l'écrire, pour l'écrire, et quand vous l'avez envoyé, ça n'a pas tardé.
Ouais, c'est vraiment une histoire incroyable parce que dans l'édition, il y a quasiment une légende. Enfin, on parle de ces manuscrits arrivés par la poste, c'est-à-dire envoyés comme une bouteille à la mer, sans avoir de contact dans le monde éditorial à qui s'adresser directement. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Quand le texte m'a paru prêt à être envoyé, j'ai fait mes petites enveloppes avec mes petites lettres et j'ai envoyé ça comme on envoie une bouteille à la mer. Et en effet, là où je suis incroyablement chanceux, c'est que je crois que le Seuil a reçu le texte un jeudi après-midi et que le lundi matin, j'avais un mail dans la boîte disant qu'ils étaient extrêmement intéressés. Mmh. Donc c'est assez fou parce que ce que vivent la plupart des auteurs, en particulier les auteurs de premiers romans, c'est-à-dire d'envoyer, d'attendre pendant des jours, des semaines, de recevoir en règle générale des noms, je le dis aux auditeurs qui voudraient se lancer dans l'aventure, c'est normal de recevoir des lettres de refus, oui. C'est la règle, c'est les oui qui sont l'exception, et donc j'ai même pas eu à vivre ce moment un peu angoissant de recevoir un premier non, se dire bon, c'est normal, puis un deuxième, bon, on commence à grincer, un troisième, on a le temps de se dire qu'en fait c'est peut-être complètement raté. Non, j'ai échappé à tout ça.
Ça s'est fait très vite.
Ouais, ça s'est fait extrêmement vite.
Je crois que Sophie Chouanel aux éditions Seuil est en train de vous écouter, vous savez qu'aujourd'hui on s'entend de très très loin.
Bien sûr.
Comment est-ce que vous vous sentez maintenant qu'il est sorti? Quand on s'est croisé le 5, lorsqu'on a essayé de se parler pour la première fois, vous teniez votre livre dans les mains pour la première fois.
Ouais, c'est vrai que c'est assez fou parce qu'en fait, ce travail éditorial, c'est-à-dire tout ce travail qui se situe en amont de la parution, c'est un travail très long. Assez fastidieux, il faut le dire, hein. c'est pas toujours une partie de plaisir, mais c'est jalonné d'étapes où de nouvelles personnes posent les yeux sur votre texte, vous disent ce qu'ils en pensent. Alors ça commence par la première personne qui le lit, puis ensuite le manuscrit circule au sein de ce qu'on appelle le comité éditorial. Au Seuil, c'est à peu près une douzaine de personnes qui l'ont lu les uns après les autres, semaine après semaine, et moi j'avais des retours comme ça. Et puis ensuite, ça passe à la direction commerciale, et puis aux représentants qui vont aller défendre le livre devant les libraires, et puis aux équipes de la direction artistique, etc., les attachés de presse. Et c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que depuis le début, j'ai l'impression d'avoir des feux verts, quoi. Il y a aucun moment où il y a une lumière qui s'allume en disant attention, il y a peut-être un problème. Et donc c'est une très belle histoire. Je m'estime très très heureux d'être signé dans une si grande maison. Enfin, c'est superbe.
Le deuxième, l'abordage va être.
Oui, on craint toujours le. Oui. Il paraît que c'est plus compliqué le second que le premier.
Les feux seront-ils verts?
C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter,
et
en tout cas.
C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Tom Charby.
Merci, c'était un plaisir d'être là.
Les sirènes d'Esvedra. Eh ben voilà, on a vraiment envie de lire ce bouquin qui est sorti il y a quoi, une dizaine de jours.
Oui,
hein, voilà.
Ouais.
Donc vraiment, il est tout neuf. Allez chez votre libraire pour lire Tom Charby, ce premier roman. Bravo. Rendez-vous bientôt pour tous les grands salons littéraires, évidemment. Et à la télé aussi, guettez-le, notre art des choix. Merci Tom, à bientôt.
Merci beaucoup, merci.